les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre librairie francophone. La période est dure, l'actualité est douloureuse. Nous sommes là avec vous et avec nos invités pour surmonter ces épreuves et soutenir toute la chaîne du livre. Nous sommes là aussi solidaires et déterminés face aux menaces qui pèsent tout particulièrement sur la France avec ces attentats récents. Nous allons donc parler de la liberté d'expression avec un grand dessinateur, mais nous allons aussi respirer un grand bol d'air. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Nous évoquerons les 25 ans de carrière du dessinateur suisse Patrick Chapat, qui publie un album de dessins sur la crise du coronavirus. Nous parlerons également avec lui de la liberté d'expression et du rôle des caricatures. Dans cette nouvelle formule lancée la semaine dernière pour les 15 ans de la librairie francophone, de nouvelles séquences avec notamment un souvenir. Nous irons dans un parc de Montréal avec des écureuils et la poétesse Denise Desautels. Et puis nous recevons en plateau Jean-Louis Fournier pour un livre qui transmet son amour pour les animaux avec toujours son esprit caustique qui fait du bien en ce moment. Les libraires sont avec nous, bien sûr, avec Yasmina Giaquinto qui représente la Suisse aujourd'hui. Bonjour Yasmina.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Baobab à Martigny. Bonjour Katia Courteau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire, vous, au Canada, libraire dans la librairie Le Port de Tête à Montréal. Déborah Damblon est en Belgique, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouve dans la version télé de la librairie francophone, Déborah, avec un nouveau numéro diffusé depuis cette semaine sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde ce dimanche à 19h. Vous êtes satisfaite de votre prestation ce mois-ci, Déborah ?
Mais je n'ai pas encore regardé, Emmanuel, mais je suis satisfaite d'être partout avec vous.
Bon, parfait. Pour la France, on est avec Sophie Todescato. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
On commence cette émission par un hommage à un grand homme de lettres disparu cette semaine à l'âge de 92 ans.
Oui, c'est Alain Rey, c'est formidable de lui rendre hommage parce que bon, ces dizaines de dictionnaires thématiques ou généraux auxquels il a consacré toute sa vie, et ça forme vraiment une œuvre monumentale entièrement tournée vers les mots des autres. Alors il nous a appris quelque chose d'extrêmement précieux, Alain Rey, c'est que la langue française, ça, c'est pas la propriété des académiciens ou des puristes rétrogrades, c'est pas une forteresse assiégée à défendre, c'est vraiment un objet vivant que nos fautes, nos mal-parlés enrichissent. La langue française, c'est vraiment notre bien à tous.
C'est en répondant à une petite annonce dans un journal en France qu'Alain Rey fait la rencontre au début des années 50 de Paul Robert, un riche héritier qui se plaignait des limites des dictionnaires existants. Ils vont lancer ensemble un dictionnaire nouvelle génération en s'ouvrant aussi aux mots du Québec et de la Belgique. Le grand Robert, puis le petit Robert, sans cesse mis à jour, deviendront la référence des dictionnaires et de la langue. Alain Rey publiera aussi de nombreux ouvrages, tantôt savants, tantôt de vulgarisation. Il tiendra aussi une chronique sur les mots de notre langue pendant 13 ans sur la Radio France Inter. Bonjour Eric Orsena.
Bonjour. Ah, comme je suis heureux que vous parliez d'Alain. Alain, c'est un grand frère. Et comme Sophie a raison, vous savez, la langue, c'est une création commune. Quand vous imaginez que pendant 12 siècles, chacun a apporté sa petite pierre à la langue, depuis les bandits comme Villon, jusqu'au roi de France, avec les fonctionnaires, avec les brefs de comptoir, c'est tout ça la langue. Et oui. Il n'y a aucune œuvre n'est plus commune qu'une langue. Moi, par exemple, en tant que romancier, je fais mon marché dans le monde de la francophonie. Je vais ailleurs, au Québec, en Afrique, en Suisse, en Belgique, pour dire, tiens, qu'est-ce qu'ils ont inventé de nouveau ? Comme si j'allais trouver un nouveau vin, vous comprenez ?
Oui, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs, Alain Rey. C'était l'un de vos proches, hein, vous l'avez dit,
un frère. Mais absolument, et honnêtement, je vous dis franchement, pour moi, je voulais tellement qu'il entre à l'Académie, mais oui. J'étais tellement jaloux, parce que honnêtement, son dictionnaire est meilleur que le nôtre.
Ah voilà, oui,
c'est ça. Je vous dis, je vais pas me faire aimer, mais je m'en fous. Moi. Je dis mon amour pour Alain, qui était magnifique, parce que, ouais. Et que vous l'avez dit très très bien, il était à la fois extrêmement savant, oui. Et extrêmement vulgarisateur.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Et regardez ce mot qui est débile en français, vulgarisateur. Parce que vulgaire, c'est pas vrai. Vous savez comment ça se dit en italien ? Divulgatore. Ouais. C'est quand même mieux.
C'est mieux.
Divulguer plutôt que vulgariser. Il m'a fait comprendre que le plus beau des livres à emporter dans une île déserte, c'est évidemment un dictionnaire.
Ouais, c'est vrai que vous avez dit ça en 2011 à l'occasion de la sortie du dictionnaire Amoureux des dictionnaires.
Absolument.
Que tout dictionnaire est un appel au voyage, un parcours semé des pièges joyeux de la digression. On y trouve toujours ce qu'on ne croyait pas chercher.
Exactement. J'ai des souvenirs comme ça, de littrés comme ça. Et alors moi j'ai cette chance inouïe à l'académie, parce qu'il n'y a pas du mal à l'académie quand même. J'ai la chance d'être à la fois au fauteuil de Pasteur et qui précédait Pasteur, littré. Donc ce sont deux visages de la vie. Donc c'est de ça dont on parlait avec Alain.
Ouais.
Sans arrêt.
Alors Alain Rey était minutieux et rigoureux, on l'a tous connu comme ça, un peu rude parfois aussi, hein.
Ah bah évidemment, parce que quand on était trop bête, il y a des moments où ils supportaient pas quand même. Vous comprenez, parce que c'est ça, et vous envoyez chier, et parce que ça fait partie de la langue française. Donc ils me disaient, mais tu dis que des conneries. Et donc il y avait ce côté aussi truculent, parce que tout amoureux de la langue, c'est pas seulement Saint-Simon, c'est aussi Rabelais. C'est ça qui est merveilleux. Et on me dirait maintenant, vous abandonnez la langue française contre, je sais pas moi, le russe, l'espagnol, tout ça. Mais on abandonne ce trésor de 12 siècles pour 500 mots débiles, c'est comme abandonner les merveilles de librairie pour Amazon. C'est un gâchis épouvantable.
Ouais. Et oui, on pense évidemment aux libraires aujourd'hui. Vous avez été enseignant, Eric Orsenna.
Oui. Je suis pas du tout un créateur, Emmanuel.
Oui, non,
moi,
mais
je suis un prof.
Oui, c'est vrai, à l'origine,
J'aime apprendre et transmettre.
Ouais, alors justement, puis-je vous demander une réaction aux attentats en France ? Un collège tout d'abord avec Samuel Paty et une église à Nice cette semaine pris pour cible.
C'est exactement l'inverse d'Alain. Alain, c'est la subtilité, c'est le respect, c'est l'accueil de l'autre, et c'est pas se réfugier dans cinq mots débiles. Voilà.
Bon, merci à toutes nos pensées pour vous, Eric, et pour tous les proches d'Alain Rey.
Moi, je suis, mais est-ce que, avec vous, et puis les libraires, parce que qu'est-ce que librairie ? Librairie, c'est vous entrer dans un dictionnaire vivant. Et où les livres ont trouvé un refuge ? Refuge, en ce moment, c'est le bon mot, dans des librairies. Vive les librairies, c'est vraiment une sorte de lieu de vie. Donc, vive la vie.
Merci beaucoup, Eric Orsenna, pour votre fidélité à la librairie francophone. À bientôt, Eric.
Merci. Oh oui, à bientôt. Merci à vous. On a besoin de vous. Merci.
Merci, Eric. À bientôt. Et dans cette nouvelle formule, chaque semaine, nous donnons la parole à un autre libraire, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, on part en Côte d'Ivoire, sur cette musique d'Alpha Blondie, dans la librairie de France, à Cocody, justement, dans le nord d'Abidjan. Bonjour Solange Anneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous aimez Alpha Blondie comme moi ?
Tout à fait.
Parfait. Décrivez-nous votre librairie, Solange. Vous êtes dans une zone commerciale, je crois. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ?
Tout à fait, je suis dans une galerie commerciale, avec le supermarché en face, et puis entouré de magasins de vêtements et de pharmacie.
D'accord. Alors le principe de cette séquence, vous le savez, c'est de nous donner un livre que vous avez lu récemment, qui vous a fasciné ou passionné. Toutes catégories confondues, vous avez une liberté totale. Quel livre nous conseillez-vous, Solange, depuis Abidjan ?
Le temps de l'instant, c'est ce livre qui m'a passionné, Le temps de l'instant. C'est un livre de 177 pages, sorti chez les classiques ivoiriens.
Oui.
C'est un fabuleux roman mettant en relief une histoire d'amour et une revisite complète de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et pour moi, selon moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre typiquement ivoirien.
D'accord. Il est paru en quelle année, ce livre ?
Et, 2017.
Oui.
Et ce livre nous fait découvrir des lieux magnifiques de la Côte d'Ivoire, en passant par Abidjan, Yamoussoukro, Daloa ou Diglo. Alors, c'est décrit avec précision, empreint d'une touche d'originalité propre à l'auteur. Alors, ceci devient immédiatement objet de curiosité et nous donne envie de partir en voyage. Alors donc, je vous invite à aller en voyage avec nous à Abidjan.
Ah ben voilà, on peut partir à Abidjan en lisant ce livre, si on ne peut pas voyager. Et pour le coup, en ce moment, on ne peut pas voyager, donc ça tombe bien.
Lié au Covid, tout à fait.
Le temps de l'instant de Aounda, aux éditions Les Classiques Ivoiriens. Merci beaucoup, Solange.
Merci Emmanuel.
Merci Solange Anneau. Je rappelle que vous dirigez la librairie de France à Cocody en Côte d'Ivoire. Bon week-end à Abidjan. Et bonjour Jean-Louis Fournier.
Bonjour Emmanuel.
On va parler des animaux avec vous comme c'était prévu malgré l'actualité très dure en cette fin de semaine. Vous voulez dire un mot sur ce nouvel attentat à Nice, vous qui avez été le comparse de Pierre Desproges. Comment aurait-il réagi à votre avis lui?
On est atterré quand on voit ça. On est atterré puis on se réfugie dans... Moi je suis avec mes animaux là, actuellement, je suis pas encore sorti.
Ouais, vous êtes encore dans votre monde.
Mais bon, oui, atterré, je ne peux pas qualifier ça, je ne sais pas.
Vous auriez fait de l'humour avec des proches sur ces sujets-là?
Si vous voulez, on fait de l'humour quand les choses sont insupportables.
Oui.
On fait de l'humour quand on n'a pas trouvé d'autres moyens d'en sortir. Vous savez, on prend un antalgique quand on a mal. Et l'humour, c'est pour moi un antalgique suprême. Je crois que... Et que, quand on plaisante, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. C'est que quand c'est devenu insupportable.
Alors dans ce livre, Jean-Louis Fournier, Merci qui ? Merci mon chien, vous dites votre affection pour les animaux qui vous fascinent par leur mystère, dites-vous.
Écoutez, j'ai voulu savoir pourquoi les gens aimaient les animaux. Beaucoup de gens aimaient les animaux. Et j'ai senti que la chose la plus étonnante d'un animal, c'était son mystère. Les êtres humains, ils sont pas trop mystérieux, ils parlent toujours, même quand ils n'ont rien à dire. Tandis que les animaux, moi je vois quelquefois ma petite chatte Art déco, par exemple, je regarde ses yeux et... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Elle me regarde. J'ai l'impression d'entrevoir le mystère de la nature, des tas de choses extraordinaires que je ne trouve pas toujours dans tous les regards humains.
Vous dites, je donnerais cher pour savoir ce qui se passe dans la tête des animaux.
Ah oui, ça pour moi c'est... j'ai toujours essayé d'ailleurs, j'ai fait une vache pour la télévision qui s'appelait la vache noiraude.
La noiraude, ouais.
J'ai voulu mettre à la place des bêtes et un oiseau qui avait le vertige aussi. J'aime beaucoup ça. Oui, le mystère des animaux, c'est quelque chose de formidable. Puis je trouve que c'est extraordinaire, si vous voulez, nos relations avec eux ne transitent pas par des mots.
Ouais.
Et donc, ça fait des relations très précieuses quand il n'y a pas de mots, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi quand on dit rien.
Alors vous écrivez ce livre avec votre chat Ardeco, c'est vrai, qui est à côté de vous, sur vos genoux même. Elle est le témoin, parce que c'est une chatte, de votre goût pour les animaux à tous les sens du terme. Et vous osez même dire que certains sont bons à manger. Tous ces animaux que vous avez mangés avec plaisir, vous écrivez « Merci mon homard, tu as été délicieux, je promets de m'occuper de tes enfants quand ils seront plus gros ».
Mais ce que je voudrais surtout, c'est déculpabiliser un peu tous mes semblables qui mangent des animaux en se disant « si on les mange, c'est qu'on les aime pas ». Ben si, au contraire, c'est qu'on les aime bien et puis on les aime différemment. Manger une bête, c'est pas qu'on ne l'aime pas.
Végétariens, les véganes vous diront le contraire.
Oui, mais enfin, ils disent n'importe quoi.
D'accord.
Ils disent absolument n'importe quoi.
Ça n'engage que vous, Jean-Louis Fournier, ça.
Non, mais moi, je suis pas... Non, mais bien évidemment, c'est la chaîne alimentaire. Si vous voulez, les petits poissons mangent les gros. Et puis, ça a toujours été comme ça. Et moi, vous savez, laisser vieillir une bête, c'est peut-être pas non plus la chose la plus géniale qui puisse lui arriver. Ouais. Les maltraiter, c'est épouvantable.
Ah oui.
Les maltraiter, ça, c'est insupportable. La souffrance animale, c'est terrible. Mais que les animaux meurent, nous aussi, on meurt.
Oui, mais on n'est pas mangé.
On fait pas un fromage, c'est pas la pire des choses qui puissent nous arriver.
Ouais, on ne tue pas pour nous manger.
Oui, mais moi, je serais ravi qu'on me mange.
Ah oui.
Et qu'à la fin, ils disent, il était bon Fournier.
Oui, ça va. Oui, d'accord.
Vachement flatté.
Sauf que Fournier, on l'aurait tué à l'âge de 40 ans ou de 30 ans, si on le mangeait.
Non, mais
on n'aurait peut-être pas attendu si longtemps.
Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. On aurait pu prendre plus loin. Viande des grisons, c'est vieux.
Bon, vous opposez aussi Descartes à Voltaire dans ce livre, Jean-Louis. Les animaux sans conscience ni pensée pour Descartes, alors que Voltaire en doutait, lui.
Si vous voulez, Descartes, il a dit, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, lui qui a dit des choses très passionnantes et intelligentes, a décidé que les animaux n'avaient ni conscience, ni volonté. Et donc, ils étaient des machines dont on pouvait disposer. C'est inimaginable de dire ça. Un philosophe. Franchement, il a jamais regardé un animal pour dire des choses pareilles. Ils sont capables d'émotions, ils sont capables de choses étonnantes. Et Voltaire a complètement répondu en disant qu'ils avaient tous les organes pour penser, pour avoir des sentiments et tout ça. Il n'y a aucune raison qu'ils n'en servent pas.
C'est ça. Et d'ailleurs, vous parlez de ces animaux qui en sauvent d'autres. Et vous dites, reconnaître que des animaux sont capables de faire le sauvetage d'un des leurs, c'est reconnaître qu'ils ont des réactions humaines. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter.
Ben, si vous voulez, il y a toujours ce problème d'anthropomorphisme. C'est vrai, c'est pas des sous-hommes, les animaux. Ce sont des animaux. Il y a les animaux, puis il y a les hommes. Et puis, il n'y a pas des mieux et des moins bien. Mmh. Les animaux sont pas mieux que les hommes, et les hommes ne sont pas mieux. On est différents. Et je trouve qu'on est pas mal fait pour cohabiter. Il n'y aurait pas de paradis s'il n'y avait pas d'animaux.
Ouais.
Regardez un petit peu les représentations du paradis par les grands peintres. C'est bourré jusqu'à la gueule d'animaux. Il y a un malheureux mec et une fille au milieu. Mais le paradis, c'était avec des animaux. Qu'est-ce qu'ils font, les animaux? Ils enchantent tout. Le ciel. Regardez les oiseaux qui passent dans le ciel. Ils enchantent la mer. Les poissons avec leurs couleurs multicolores. La terre. Regardez des chevreuils qui courent dans une forêt, tout ça. Ils sont un enchantement pour nous.
Et pourtant, on les respecte pas assez, c'est vrai, vous le dites.
On les respecte pas, puis si vous voulez, on dispose d'eux. Moi, je pense toujours, par exemple, je me mets à la place d'une poule.
Oui.
Elle pond. Elle est vachement fière.
Oui.
Elle chante, d'ailleurs, quand elle pond. Oui. Tellement elle est fière. Et puis, un mec, il arrive. Il prend l'œuf. Il se casse avec l'œuf.
Oui.
Il casse l'œuf, en plus. Et vous pensez qu'il aurait idée de dire merci, ma poule? Non mais franchement, mais c'est vrai, moi je voulais instaurer un truc, chaque fois qu'on mange une omelette ou un œuf à la coque, à la fin, c'est de demander au gosse, dites, qu'est-ce qu'on dit? On dit, merci ma poule.
Ça ferait plaisir à Coluche. Hein, ça.
Non mais c'est vrai en plus, et c'est pas pour faire rigoler, je me mets à la place de la poule.
Non mais je suis d'accord Jean-Louis, c'est juste que je pense à Coluche parce qu'on fête justement cette semaine l'anniversaire de sa naissance, donc voilà, c'est vrai, ma poule, merci ma poule.
Vous savez, parce que merci mon chien, d'où ça vient,
c'est quand une expression.
J'étais petit, on me disait toujours, quand je disais merci, fallait dire merci papa, merci maman, merci monsieur le curé, merci mon Dieu éventuellement. Quand on disait merci tout court, on nous reprenait en nous disant merci mon chien.
Ouais.
Parce que merci mon chien, c'était absurde. On dit jamais merci à une bête. Et ben moi j'ai dit, moi justement, j'aime bien faire ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire dire merci aux animaux.
Bon, on va laisser la place à nos libraires. Juste avant, vous regrettez qu'on n'applaudisse jamais les oiseaux qui chantent.
Ben évidemment. Écoutez, quand un musicien joue, quand une soprane chante, forcément, quand elle a terminé, tout le monde applaudit. Les oiseaux, ils font des trucs. Moi, j'ai des mères comme ça qui sont des solistes.
Ouais.
Et ben, jamais on pense à les applaudir.
Vous les applaudissez maintenant ou pas?
Un peu.
Eh, depuis que vous avez écrit ça, vous êtes obligé.
Mais il y en a de moins en moins, hélas.
Ah, ça dépend. Avec le confinement, ils reviennent. Ils sont là.
Un petit peu. Ouais.
Bon, allez, les libraires, Jean-Louis Fournier, la France et la Belgique, avec Déborah Damblon en Belgique, qui a lu votre livre. Qu'en pensez-vous, Déborah?
Alors, monsieur Fournier, d'habitude, je trouve que votre force, c'est de nous entraîner dans des sujets qu'on n'a pas du tout envie d'aborder, et puis de nous faire rire, de nous faire pleurer, et de nous en faire ressortir plus humains. Cette fois, avec les animaux, moi, je trouvais qu'au moins le sujet semblait évident. Eh bien, comme toujours, vous vous êtes révélé surprenant, facétieux, drôle, grinçant, tendre, plein de sens. Vous nous mettez face à nos contradictions, à nos affections, à l'absurdité de notre humanité. Et cette fois, je trouve que c'est plus en paix avec nous-mêmes qu'on en ressort.
Bon, voilà, c'est positif. Allez, la France, Sophie Todescato, êtes-vous d'accord?
Oui, c'est un livre assez merveilleux, parce que comme le titre le dit, c'est un livre tendre et on a pas mal besoin de tendresse, j'ai l'impression, en ce moment. Alors bien sûr, c'est Jean-Louis Fournier, donc c'est un livre tendre et noir à la fois, mais le mélange fonctionne très bien, parce que chaque petite scène est écrite vraiment au millimètre, avec beaucoup de précision dans la chute, dans le détail. J'ai trouvé qu'il y avait dans ce livre à la fois quelque chose de Pierre Dac et à la fois quelque chose de Jules Renard, et en tout cas, c'est vachement bien.
Bon, il a l'air étonné, Jean-Louis, malgré le masque, hein, parce qu'on a un masque, donc on voit pas trop nos expressions.
Fier, surtout.
Mais il a l'air content.
Il est fier.
Bon, il y a de l'humour aussi dans ce livre, sur notre façon de vivre avec les animaux. Doit-on dire bonjour à son chien, ou encore faut-il dire à vos souhaits à un lion qui éternue?
Non. Surtout si on a un petit bébé dodu dans les bras.
Oui, ça c'est...
Évidemment.
Il n'est pas recommandé non plus de souhaiter une bonne journée au bœuf qui part à l'abattoir.
Non, comme une bonne journée à une chouette. Il faut dire bonne nuit.
Et lors d'une épidémie, quand il est recommandé de se tenir à distance, certains animaux en laisse pourraient être très utiles, Jean-Louis.
Eh oui, acheter un tigre ou un lion et la laisse, une laisse d'un mètre. Et on ne va pas vous approcher.
Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces idées-là?
Allez donc savoir. J'ai un bric-à-brac dans ma tête, absolument rien n'est rangé là-bas. Tout s'est chamboulé, alors quelquefois, il se passe des joints, des collages, puis, oui.
Ouais, il y a des choses plus sérieuses aussi. Vous dites que 20 000 éléphants sont tués chaque année en Afrique et qu'on a décimé la girafe blanche au Kenya.
Oui, bah ça s'est passé au mois de mars. C'était une girafe unique avec son petit et on a tué la, il y a un gars, des braconniers, et qui a tué la girafe. Écoutez, moi, franchement, moi j'ai honte de mes semblables quand je vois des trucs pareils. Ben, comme les gars qui abandonnent leurs animaux, hein, vous savez, c'est pareil, on n'a pas tous la chance de pouvoir tuer une girafe.
Et d'ailleurs, vous saluez la Suisse, qui eux n'ont pas le droit de laisser certains animaux de compagnie tout seuls.
Ça c'est extraordinaire ça.
Vous connaissez, il y a une loi qui est passée.
Oui, hein, mais je l'ai découvert à l'occasion de ce livre. Ouais. Il y a une loi où comment dire, un animal ne peut pas être tout seul, il faut qu'il ait un compagnon ou une compagne.
Le cochon d'Inde, la tortue, le lapin et le poisson rouge.
C'est fantastique.
Doivent
ça,
être en couple, en fait, minimum.
Cette idée. Ben, c'est-à-dire, c'est qu'on commence à penser que, au fait que les animaux doivent peut-être être heureux aussi. Que c'est important aussi, leur bonheur.
Alors, ils ne possèdent rien, les animaux. Ça, vous l'expliquez aussi. Vous dites qu'ils peuvent s'amuser avec le plus rudimentaire. Une boule de papier avec un billet de banque ou avec une feuille de papier, c'est pareil pour eux.
Mais non, mais c'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. C'est que, ils jouent avec un petit bout de laine, un petit truc comme ça. C'est pas comme nos sales gamins qui veulent des jeux vidéo en permanence. Et le dernier jeu vidéo, en plus, pas le premier.
Ah oui, le plus cher, oui.
Ils demandent rien, ils jouent comme ça avec un bout de paille, tout ça. C'était très touchant, je trouve.
Un monde sans animaux serait un cauchemar, comme un monde sans artistes.
Si vous voulez, oui, moi je pense qu'il faut intervenir dans le monde quelque chose, il faut intervenir la beauté aussi, parce que l'être humain est pas mal, mais certains animaux... Moi, la dernière fois, j'ai fait ma toilette dans la même salle de bain avec ma petite chatte qui était à côté, qui faisait sa toilette aussi. Mmh. Alors elle passait sa petite patte élégante sur sa tête et tout ça, c'était joli comme une chorégraphie. Et moi, j'étais avec un grand caleçon devant mon lavabo, c'était pas un spectacle absolument fascinant. Et j'essayais de me savonner le dos.
Ouais.
Mais entre les deux, je vous avouerai que la beauté, c'était pas moi.
Ouais.
Ils sont tout à fait étonnants. Puis en plus, ils ont amené alors ça, c'est plus sérieux. C'est qu'ils ont amené énormément de choses à laquelle on ne pense pas. Sans boyaux de mouton, il n'y aurait pas de violoncelle.
C'est vrai.
Tous les instruments à cordes. Ouais, pas de quatuor à cordes.
Et, oui.
Et l'écriture, la plume pour écrire, la peau, le velin... pour faire du papier. Ça, c'est très... C'est intéressant de penser ça, que c'est grâce aux animaux. Et puis les crins de chevaux, pour les archers. Et le crottin de cheval, pour les roses. C'est grâce au crottin de cheval qu'on a des belles roses. Vous voyez, la beauté, elle est toujours là.
Bon, merci beaucoup Jean-Louis Fournier. Merci qui, Jean-Louis ?
Merci mon chien.
Et paru aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup Jean-Louis. À suivre notre séquence autour des 15 ans de l'émission avec une balade dans un parc de Montréal avec Denise Desautels et le conseil classique d'un bibliothécaire. Avant cela, on écoute La Féline qui va forcément vous faire penser à une autre chanteuse. Merci à vous d'écouter La Librairie Francophone.
Yeah.
On dirait un peu du Mylène Farmer, mais c'était la chanteuse française La Féline dans la librairie francophone avec Fusée. Notre nouvelle séquence avec chaque semaine la parole aux bibliothèques sur France Inter, la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Cap sur la Lorraine en France à Sarreguemines. Bonjour Christophe Jung.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque de Sarreguemines et vous allez nous conseiller un livre classique comme c'est désormais la tradition dans cette émission.
Oui, absolument. Il s'agit de Thérèse Raquin d'Émile Zola. C'est un grand classique de la littérature française. Alors, c'est un livre qui a fait scandale à sa sortie en 1867.
Oui.
L'histoire se déroule à Paris, dans les années 1860. On y découvre Madame Raquin qui tient une mercerie dans le passage du Pont-Neuf. Son fils Camille, qui est chétif, faiblard et souvent malade. Et puis Thérèse, sa fille adoptive. Quand ils sont adultes, Madame Raquin a organisé leur mariage. Mais Thérèse, qui est pleine d'énergie, se sent très rapidement prisonnière de sa vie insipide avec Camille, qui la dégoûte profondément. Une fois par semaine, les Raquin reçoivent des amis à dîner. Un jour, Camille invite Laurent, un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps. Thérèse est tout de suite attirée par lui parce qu'il est le parfait opposé de Camille. Il est fort, il est plein de vie, il est viril, il est un peu rustre. Ouais. C'est la première fois qu'elle voit un homme, un vrai.
Et c'est très sexuel, hein, d'ailleurs, comme livre.
Ils amants, ils vivent leur amour en cachette, puis lassés de la situation, le couple met au point un plan diabolique qui les mènera au crime. C'est un crime qui ne cessera de les hanter comme il ne cessera de hanter le lecteur.
D'accord, on ne dit pas tout, c'est un livre très sexuel aussi, hein. Pour l'époque c'était terrible.
Oui, il a été vraiment sujet à beaucoup de critiques, hein, de la part d'autres lecteurs. Hein.
Bon, merci beaucoup Christophe, merci, vous écoutez la librairie francophone à Sarreguemines, j'espère.
Nouvel auditeur.
Bon, très bien, bah, restez fidèles. Merci Christophe Jung, bon week-end en France, en Lorraine. À bientôt. Pour les 15 ans de l'émission, nous piochons chaque semaine dans nos archives une rencontre, un reportage ou un entretien en extérieur. Aujourd'hui, on part à Montréal, dans le parc La Fontaine, où nous avions fait une balade avec l'écrivaine et poétesse Denise Desautels.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Voilà, on arrive sur le parc La Fontaine, un grand parc urbain de Montréal situé sur le plateau Mont-Royal. Bonjour Denise Desautels.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous ici au cœur de Montréal. Donc vous êtes auteur de poésie, de récits qui vous ont valu de nombreux prix au Canada et en France. Et vous publiez un recueil de textes et de photos aux éditions du Norrois, un petit livre qui s'adresse à votre fils avec des textes inspirés par ce parc, un lieu qui vous rappelle apparemment beaucoup de souvenirs. Il y a en couverture des chaises, l'œuvre d'un artiste que l'on a juste à côté de nous. Commençons par ces chaises qui sont symboliques pour vous.
Oui, l'œuvre s'appelle Leçon singulière 2. Et sous chacune des chaises qui sont vraiment ancrées dans le sol,
fixées au
on
sol,
retrouve des objets qu'en fait on peut utiliser ou qu'on a avec soi quand on vient dans un parc.
Par exemple, il y a un livre là.
On peut venir lire dans un parc, on peut apporter son lunch dans un parc, jouer au ballon, avoir des chaussures qui
nous permettent
de faire de la course, enfin.
On va se balader, on va commencer par là. Tiens, on va aller vers l'étang, il fait très froid. Ici, mais bon,
il peut faire très beau et très chaud dans ce parc.
En même temps, c'est la période. Qu'est-ce que vous ressentez ici, Denise Desautels, vous?
J'y ai passé la plus grande partie de ma vie. J'y reviens, j'y marche chaque matin. J'y ai des couches et des couches de souvenirs. Je me suis rendu compte également que je n'ai pas de maison de famille. Et qu'en fait, peut-être que cette maison de famille, avec des greniers remplis de souvenirs et des sous-sols remplis de souvenirs.
C'est ici.
C'est ici. Ouais. Et ça m'a amené aussi à découvrir que, ben, j'avais aussi de graves problèmes avec la question de l'amour.
Vous êtes très dur avec vous-même quand même, parce que vous dites à certains moments que vous n'avez pas été à la hauteur, que d'une certaine façon, vous n'avez pas réussi à être une bonne mère, hein, en substance. C'est ce que vous racontez plusieurs fois.
C'est-à-dire que oui, mais enfin, ce que je dirais pour résumer très rapidement, c'est la grande question pour moi, c'est comment, quand on est une mère à qui on a enfant coupé les ailes, comment on peut être une mère qui apprend à voler, disons, à son fils? C'est au cœur même du livre, je dirais. Comment donner l'amour quand soi-même, on n'a pas appris? Et ce qu'on a appris, c'est plutôt l'affolement et la culpabilité et le remords, et voilà.
«
alors vous, dans tout ça, à l'époque, quand vous étiez enfant, c'était un refuge pour vous, c'est ça? C'est une façon de sortir, c'était votre jardin?
Oui, mais on n'y venait pas seul. C'était un grand parc et c'était dangereux pour les petites filles. On avait l'impression, en tout cas nos parents avaient l'impression que... qu'on allait être attaqué à chaque coin, il fallait venir accompagner quand j'étais petite fille.
Non, mais attaqué par les écureuils, hein, oui, parce qu'il y a plein d'écureuils partout.
Oui, il y a des écureuils.
C'est incroyable parce qu'ils sont vraiment très près de nous.
Et donc, pour tout le monde, il y avait aussi une patinoire de glace artificielle.
D'accord.
Et donc, on pouvait commencer très tôt à patiner et patiner très tard. Donc, avec ma copine que j'appelle Loulou dans le texte, on venait tous les soirs tourner en rond sur la patinoire artificielle du parc La Fontaine. Il y a aussi ici l'hiver.
Alors sur une passerelle, on est sur une passerelle. On va décrire quand même l'endroit où on est.
Ça a été le pont des amoureux quand il était couvert à une autre époque. Et puis maintenant, depuis les années 90, c'est le pont qui sépare les deux étangs.
Alors il y a une histoire ce parc Denise des Hôtels parce qu'il est situé sur les terrains de l'ancienne ferme Logan, une terre qui fut cédée au gouvernement du Canada en 1845
et qui a
servi de champ de manœuvre militaire pendant plus de 40 ans. Ce sont les soldats de la garnison britannique qui loge à l'époque et qui s'entraîne là.
Oui, voilà. On louera à la ville de Montréal une partie du terrain un jour pour commencer un aménagement qui soit celui du parc. Ce n'est qu'en 1901 qu'on donnera le nom de Louis-Hippolyte Lafontaine, le nom du premier ministre canadien du Canada uni, mais qui défendait aussi la langue française. Ça réconciliait donc dans la ville de Montréal les Anglais et les Français, puisque ça avait été un chef d'État canadien, mais qui défendait la langue française.
Denise des Hôtels, dans ce parc La Fontaine, vous avez couru dans la neige avec votre meilleure amie, hein, vous le racontez, meilleure amie disparue, c'est un vrai traumatisme pour vous à la fin des années 90.
Vous avez donné le livre Tombeau de loup.
Voilà, exactement. Vous avez aussi vu votre premier homme exhibitionniste. Vous avez observé les écureuils que l'on a vus sur le parcours.
On en a partout. Hein.
Il y en a partout. Hein. Vous avez aussi observé, vu des fantômes. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait ici, Denise?
J'ai donné mon premier baiser, mais je n'ai jamais fait l'amour.
C'était pas vraiment le sens de la question, mais c'est... Denise des Hôtels a publié une cinquantaine d'ouvrages. L'entretien que vous venez d'écouter, réalisé en 2013 dans un froid polaire, vous l'avez entendu à ma voix, porté sur son livre « Sans toi, je n'aurais pas regardé si haut, tableau d'un parc », publié aux éditions du Norrois. Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires tout de suite au Canada. Un coup de gueule ou un coup de cœur, Katia Courtois?
Eh bien, un coup de gueule, Emmanuel.
D'accord, allez-y.
Alors, je me demande où sont les peuples autochtones dans les livres jeunesse au Québec. Leurs traditions et leur culture, leurs légendes, la richesse de leur histoire. Quelques livres existent déjà, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Donnons-leur la parole. Montrons leur art.
Bien, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Katia, pour ce coup de gueule. En Suisse, Yasmina Jacquinto, un coup de gueule aussi.
Oui, un coup de gueule, parce que vous savez qu'au printemps, avec la crise sanitaire, le mot d'ordre des éditeurs était de réduire la voilure des publications. Il s'agissait de ne pas noyer la production littéraire. Eh bien, que s'est-il passé concrètement? Dans ma librairie, dès septembre, nous avons dû ajouter une table supplémentaire pour les nouveautés en littérature générale, tellement il y en avait. Et cerise sur le gâteau, les diffuseurs n'ont pas réussi à endiguer les nouveautés de Noël, qui sont déjà arrivés fin septembre. Alors c'est un vrai gâchis pour nous parce que nous devons encore défendre des titres sortis pendant cette fermeture du printemps et nous voilà confrontés encore au dilemme du choix.
Et c'est vrai que certains éditeurs s'étaient engagés à ne pas faire de la surproduction après le confinement et apparemment ça n'a pas été respecté. Merci Yasmina pour cet éclairage. En Belgique, un coup de cœur, Déborah Damblon dans le rayon des livres jeunesse, pour changer.
Mais oui Emmanuel comme c'est pas demain qu'on va pouvoir ressortir, ben moi je vais vous faire rêver un peu aux promenades en famille que vous allez pouvoir faire en Belgique.
Allez-y.
Parce que revenez tous en Belgique après. Hein.
Oui, bien sûr.
Donc c'est une très très chouette collection qui est faite pour préparer les enfants. Donc du coup, vous pouvez commencer maintenant. C'est la série des Léa et Gaspard. Alors ce sont des aventures qui nous amènent aux quatre coins du royaume pour résoudre des mystères et puis découvrir évidemment plein de coins de notre chouette petit pays.
Et c'est de Fabienne Blanchu avec les illustrations de Claire Waterman aux éditions Ozu Éditions Léa et Gaspard. Merci Déborah. Dans un instant, le dessinateur suisse Chapat qui fête ses 25 ans de carrière à Genève en ce moment. Nous reviendrons aussi sur ses dessins qui dérangent et qui parfois motivent des extrémistes ou même de minables barbares qui veulent nous intimider avec leurs actes ou leurs menaces, mais qui jamais nous feront renoncer à notre intégrité et à notre liberté d'expression. Voici le nouveau titre du chanteur Benjamin Biolay, tout de suite dans la librairie francophone.
Ce matin-là, par erreur, je m'étais levé trop tôt. Mon cœur, c'est un vieux moteur, si tu soulèves le capot. Jamais touché. Ton col Claudine, ta sucette et cette impression, t'avais déjà volé, volé. Au cœur, même pas maquillé, t'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber, t'es belle comme une voiture volée. Là dans le ciel, il y avait des nuages obscènes. Les gens avaient l'air de hyène en regardant ma pauvre dégaine. Puis je t'ai vu embrasser ce barbu qui avait l'apparence du parfait trader. Il n'en voulait qu'à ton cul, quant à moi, je n'en voulais qu'à ton cœur. Aucun, même pas maquillé, t'es belle comme une voiture volée. T'es la balle qui m'a fait tomber, t'es belle comme une voiture volée. Si tu savais que t'es toute ma vie, que t'es mon soleil. Moi je suis facile, que je m'allonge tranquille, que je suis soumis, que t'es toute ma mort, que t'es toute ma vie. Si je t'avais rencontré avant, oh, quand j'étais jeune et charmant.
Le nouveau titre de Benjamin Biolay avec Comme une voiture volée.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Patrick Chapat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de Genève. Vous collaborez depuis 25 ans pour la presse internationale. Le Temps en Suisse, votre pays, mais aussi Le Canard Enchaîné, Der Spiegel en Allemagne, Courrier International ou encore le New York Times. Dessinateur engagé, vous prenez toujours position pour la démocratie, le dialogue et la liberté. Vous dites qu'il faut défendre ces valeurs car la démocratie n'est pas éternelle.
Ben oui, ça c'est vrai. Et les dessins de presse sont nés avec la démocratie. C'est vrai que Daumier, c'est le grand-papa des dessinateurs de presse et leur lutte a accompagné celle d'une conquête de la liberté de la presse. Et les dessins de presse sont beaucoup attaqués. Ils sont en tout cas au centre de beaucoup de pressions, hein, entre la pression politique, qui est un grand classique, et entre la pression des intolérants sur Twitter et puis évidemment les extrémistes meurtriers, ça fait beaucoup.
Alors le New York Times, pour lequel vous avez travaillé, a lui renoncé aux dessins de presse. C'est très récent. Pourquoi le New York Times a décidé de ne plus publier de dessins ?
Bah oui, c'était l'année dernière, en juin 2019. C'est une affaire qui a fait un peu de bruit. Le New York Times, figurez-vous, a choisi de publier un dessin qui était un dessin d'agence d'un confrère portugais, Antonio. Oui. Oui. Et ce dessin a provoqué, a été dénoncé comme antisémite, provoqué un gros backlash. Alors il y avait la collusion, la rencontre parfaite de pression politique des ennemis du New York Times, parce que tout ça est né de Breitbart, évidemment de la droite, le fils de Trump, le fils de Netanyahou ont retweeté ce dessin, etc.
Oui, alors il faut dire quel est le dessin, Patrick, c'est que c'est...
Oui, bien sûr, c'est un dessin qui représentait Trump et Netanyahou.
En laisse.
Avec, Netanyahou sous la forme d'un chien en laisse, voilà. Trump se faisait guider par un chien d'aveugle qui était Netanyahou. Et puis, voilà, Fox News et compagnie ont rencontré la susceptibilité sur les réseaux sociaux, l'accusation d'antisémitisme, d'atteinte dans la foi et les sentiments religieux.
Oui.
Donc la rencontre des deux, la rencontre du politiquement correct et de la pression politique, c'est la fin de la liberté d'expression.
Mais vous dites que quand le dessin de presse est menacé, c'est la liberté qui est menacée. Et dans l'Amérique de Trump, la presse libre et le dessin subversif deviennent un danger, en fait.
Bah oui, parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, berceau de la liberté d'expression quand même, des dessinateurs ont perdu leur job parce que leurs employeurs trouvaient leurs dessins trop critiques. C'est arrivé à Rob Rogers au Pittsburgh Post-Gazette, c'est arrivé à Michael Dehader, un Canadien. Donc on voit ça aux États-Unis aujourd'hui.
Pourquoi, selon vous, Patrick Chapat, il faut continuer à tout dessiner et à se laisser le droit de caricaturer ?
Bah écoutez, en tout cas, la liberté d'expression, c'est une valeur fondamentale. Je crois que l'humour, c'est quelque chose de sacré. On est dans une rencontre un petit peu impossible entre le sacré, une définition du sacré. Je crois que dans une culture française, l'humour est quelque chose de sacré. On aimerait s'y réfugier. Malheureusement, l'humour est l'objet du malentendu. Il faut comprendre que c'est vrai que l'humour est quelque chose de culturel, hein, alors que l'image est universelle. Donc c'est pas étonnant que... j'en suis toujours étonné, mais c'est pourquoi le dessin se trouve au milieu de controverses quasiment mondiales.
La France est aujourd'hui menacée dans le monde à cause des caricatures du prophète, boycott des produits dans certains pays, attaque de symboles et de représentants de la France. Beaucoup sont tentés de dire qu'il faut arrêter ces dessins, qu'il faut renoncer. Quelle est votre position, vous ?
De quel dessin on parle ? Renoncer à dessiner Mahomet, c'est ça la question ?
Par exemple, ouais. ou d'autres, la caricature, mais oui, là pour le coup le prophète.
Si on renonce à tous les dessins de presse comme le New York Times, alors je crois qu'on se... autant mourir, parce que je crois que l'humour, encore une fois, est aussi nécessaire que l'air qu'on respire, comme j'ai répété souvent. Moi, je défends le droit de Charlie de faire les dessins qu'ils veulent, dans un esprit potache. Après, c'est à eux de prendre les décisions qu'ils prennent. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté de ne pas être d'accord, hein, de ne pas endosser le discours. Oui. C'est la liberté pour moi... pour les journaux de ne pas reproduire ces dessins. Les dessinateurs, depuis 2006, sont devant cette question « Et toi, est-ce que tu dessinerais Mahomet ?» Et c'est une sorte d'impératif contradictoire. Si tu es libre, dessine Mahomet. J'aimerais qu'on sorte de cette espèce de cercle vicieux et que justement, Charlie Hebdo, je crois, ne définit pas le dessin de presse. Il y a autant de définitions qu'il y a de dessinateurs de presse. Et Mahomet ne définit pas la thématique la plus importante qui est l'islamisme radical, l'islamisme politique et comment il s'insinue de plus en plus dans la vie politique.
Mais alors, le pire, c'est qu'on a passé un cap, je dirais, avec le président turc qui a réagi avec violence à un dessin, comme le font ce qu'on appelle les terroristes, que j'appelle moi minables barbares. Mais on passe un cap à partir du moment où un président d'un pays attaque avec violence un dessin de presse, on se demande où on va quand même, non ?
Ah oui, mais là, c'est du grand classique. Erdogan politise l'islam et il s'attaque à la France pour ces raisons, mais surtout pour d'autres raisons. C'est un grand classique. Et Erdogan,
on utilise ça, bien sûr.
Bien sûr, mais lui, il n'en est pas à son premier coup. Erdogan a été le premier à s'en prendre aux caricaturistes turcs. En Turquie, quand il était encore Premier ministre, il a fait un procès à des dessinateurs. Et récemment, Musa Kart, dessinateur du journal Cumhuriyet, a été condamné à 2 ans de prison dans la Turquie d'Erdogan. Donc, c'est un grand classique. Les premiers à en souffrir ont été les dessinateurs turcs.
Exactement. Vous dites, Patrick Chapat, que le dessin devrait être un outil de dialogue. Et vous avez dialogué avec vous-même, avec un album qui sort justement en ce moment, qui raconte la crise du coronavirus. Vous commencez par les débuts de l'épidémie à Wuhan, fin décembre, et vous racontez votre contamination et votre mise en quarantaine. Vous avez été contaminé bêtement lors d'une soirée, comme on l'explique dans les médias en ce moment. Vous, ça vous est arrivé?
Oui, ça m'est arrivé. Vous voyez la conscience professionnelle du narrateur qui prend sur lui de faire l'expérience du Covid. Mais mon récit n'est pas un récit de confinement et c'est pas un récit personnel. Le narrateur ici, il vous prend par la main dans ce qui est vraiment un reportage dessiné.
Oui.
Et ce que j'ai voulu raconter, c'est comment ce Covid, cette pandémie, a déboulé dans nos villes et a déboulé dans nos vies. Et surtout, c'est un reportage qui suit les combattants au front de l'épidémie, donc les soignants, les intensivistes ou les urgentistes, le personnel de nettoyage, tous ces gens qui travaillent à l'hôpital et qui ont été les premiers. C'est vraiment un reportage où je les ai suivis de mars à peu près fin juin. Et l'histoire se termine encore fin août, quand on voit poindre cette deuxième vague.
Alors c'est vrai que c'est très bien réalisé, c'est très bien dessiné. Vous êtes un grand dessinateur, Patrick, mais ça, tout le monde le sait. Et il y a des passages très émouvants. Vous évoquez aussi l'unité de soins de l'hôpital universitaire de Genève et le professeur suisse Didier Pité, qui a conçu le gel hydroalcoolique il y a quelques années pour une autre utilisation que la nôtre en ce moment. C'est un Suisse qui a inventé ce gel hydroalcoolique, en fait.
Absolument. Enfin, il l'a pas inventé.
Non, il a
le gel
existait,
mais il l'a offert à l'humanité à travers un programme de l'OMS.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il a généralisé l'usage du gel à l'hôpital de Genève. On a découvert que grâce à ça, on faisait réduire de 50% les infections nosocomiales. Quand on sait qu'il y a 16 millions de personnes dans le monde qui meurent dans les hôpitaux de ces infections-là, ça veut dire qu'il sauve la vie de plusieurs millions de personnes chaque année en donnant ce produit à l'humanité. Et c'est vraiment bien tombé parce qu'imaginez si ce produit avait été sous licence au moment de la crise du Covid.
Ouais,
donc,
ouais.
Et ce Didier Pité se trouvait être à la fin de la BD, au rebondissement, nommé par le président Macron,
ouais,
convoqué à l'Élysée, en jet privé, et puis il s'est trouvé être à présider la commission d'évaluation du Covid, ouais, désignée par la présidence.
Alors vous le dessinez avec le président Macron à l'Élysée, et Emmanuel Macron lui dit « Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce que je sais que vous avez un train ce soir pour rentrer à Genève », et il lui dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai mon pyjama », c'est vrai ça ?
C'est vrai, et ça nous dit beaucoup du personnage, et ça nous dit beaucoup aussi du fait de cette espèce d'esprit suisse qui est à la fois, enfin, qui se prend pas au sérieux.
Et selon le professeur Pité, on en a, selon votre bande dessinée et selon lui, on en a pour 3 ans avec ce virus. C'est pas ça qui va nous redonner le moral, hein. Bon, les deux libraires, le Canada et la Suisse, on commence par qui, Patrick Chapat?
Ben le Canada.
Le Canada, allons-y. Katia Courtois à Montréal.
Oui, alors, je vais être un petit peu dur avec Monsieur Chapat. Pour moi, c'était trop tôt, un peu trop peu. Trop tôt parce que nous avons encore les deux pieds dans la deuxième vague. J'ai eu l'impression de lire une rétrospective incomplète de ce qui me submerge en ce moment et qui n'est pas encore terminée. Trop peu aussi, un peu, parce que je n'ai pas eu l'impression que la dimension narrative et le point de vue du reportage apportaient réellement quelque chose en plus. En fait, ce que j'ai aimé, ce sont vos dessins de presse rassemblés ici. Ce regard-là, je l'ai beaucoup aimé.
Bon, je ne suis pas du tout d'accord parce que je le disais tout à l'heure, la BD est très très bien faite. C'est un livre génial et pourtant je n'avais pas du tout envie de lire un livre sur le coronavirus, moi non plus. Et il y a Yasmina Giaquinto en Suisse qui n'est pas du tout d'accord avec Katia, qui est à Montréal. Yasmina, c'est à vous.
Effectivement, et comme vous Emmanuel, lire un livre sur la pandémie alors que les publications sur le sujet pullulent...
Oui, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs.
Voilà, j'étais pas vraiment enchantée. Mais en fait, l'intelligence de votre reportage réside justement dans la distanciation de la narration. Vous avez su être à la fois l'observateur, l'acteur et le narrateur. Il n'y a pas de jugement, juste des faits. Et votre humour qui font de votre BD un ouvrage sensible et universel. Alors, s'il y a un livre sur le sujet qu'il vaut la peine de garder pour la postérité, c'est bien le vôtre.
Oui. Patrick Chapat.
Bah écoutez, c'est vrai débat. Que ça m'aurait arrangé que la deuxième vague attende un peu, alors ça c'est sûr, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle arrive si vite. Pour moi, c'était vraiment histoire de prendre date pour l'histoire de ce moment absolument unique, à la fois intime et universel. On a tous vécu ça intimement et on l'a vécu au niveau de la planète. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce que m'ont donné, je trouve, les soignants m'ont donné beaucoup sur le point de vue universel, humain, de ce qu'ils vivaient avec les émotions fortes. Je crois que c'est une histoire qu'on pourra raconter à nos petits-enfants.
Et on s'aperçoit de certaines choses, en fait. Il y a le docteur Pugin, par exemple, que vous dessinez en train de dire « Si le déconfinement est trop rapide, il y aura d'autres pics ». Et il dit ça dans le courant du mois d'avril.
Oui, oui, bien sûr, et ils le disent tous, quand l'automne arrivera, ce sera encore plus dur. Mais encore une fois, on ne pensait pas que ça viendrait si vite, hein. On pensait qu'on allait respirer un peu plus longtemps. Mais rappelons-nous ces moments, je crois qu'on oublie très vite, hein. Vous avez parlé des animaux tout à l'heure, ce que les biologistes ont appelé l'anthropose, cette espèce de bruit humain qui s'efface soudain, parce qu'il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus d'avions. J'ai voulu aussi évoquer, l'histoire s'éloigne un petit peu, elle a des fois des côtés, je crois, un petit peu poétiques, pour évoquer des moments uniques dans l'histoire de l'humanité, des moments inouïs qu'on a vécu collectivement.
Merci beaucoup Patrick Chapat. Merci, bon anniversaire Patrick.
Merci à vous.
25 ans de carrière et le prix annuel de la Fondation pour Genève qui vous a été décerné le 28 octobre dernier. Félicitations. Au cœur de la vague, reportage dessiné et paru aux Arènes BD en coédition avec Courrier International et Le Temps. C'est un super livre, même si on n'est pas d'accord dans l'équipe, vous l'avez entendu. À bientôt Patrick, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. On termine avec une musique numéro 1 quelque part dans le monde. Voici la chanteuse Elissa avec son nouveau titre numéro 1 en ce moment au Liban. Elissa, qui fait partie des titres les plus écoutés en ce moment au Liban. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Florent Layani. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teucher en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission confinée mais ouverte sur le monde. N'oubliez pas la version télé de la librairie francophone, notamment ce dimanche à 19h sur TV5 Monde. Bon courage à tous, faites attention à vous surtout, et je me permets aujourd'hui une pensée pour les victimes de Nice, dans cette église et dans ce quartier de mon enfance. À bientôt, salut.